Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 16 juillet 2015, en direct de Washington. Bagassi Koura et Anne Alberson à la une ce matin.
Crise au Burundi, création d'une alliance d'opposants et de dissidents en exil pour faire partir le président Pierre Nkurunziza du pouvoir. L'annonce en a été faite hier par l'opposant burundais en exil, Alexis Sindouidje.
Au Burkina Faso, le gouvernement a publié hier les deux décrets fixant officiellement le premier tour des élections présidentielles et législatives cumulées au 11 octobre prochain.
Le Parlement grec a approuvé un ensemble de réformes difficiles exigées par les créanciers du pays en échange d'un plan de sauvetage.
Les États-Unis ont soumis hier au Conseil de sécurité une résolution qui entérine l'accord nucléaire conclu mardi à Vienne entre l'Iran et les grandes puissances.
Et ne manquez pas la Minute Éco et les sports. Tout d'abord, le journal.
La crise au Burundi, le médiateur, le président ougandais Yoweri Museveni a indiqué que les différents protagonistes, notamment le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, les partis d'opposition et la société civile, s'étaient mis d'accord pour négocier intensément, sans interruption et promptement pour trouver un accord. Le chef de l'État ougandais a passé hier le relais à son ministre de la Défense après un séjour de 24 heures à Bujumbura, où il a obtenu l'engagement des protagonistes à dialoguer.
De son côté, l'opposant burundais en exil, Alexis Sindouidje, a annoncé la création d'une alliance d'opposants et de dissidents en exil visant à faire partir le président Pierre Nkurunziza du pouvoir, s'il le faut par la force. Il l'a déclaré mercredi soir sur la chaîne de télévision France 24. L'objectif global, c'est de faire partir Nkurunziza. Il n'est plus crédible, a expliqué M. Sindouidje, selon les extraits diffusés de cet entretien. J'ai l'impression que la seule voie, ce sera malheureusement la violence. Nkurunziza peut partir maintenant et être remercié par les Burundais pour avoir préservé les vies des gens. Il peut aussi refuser de partir et il partira par la force. Fin de citation.
Au Burkina Faso, le gouvernement a publié hier les deux décrets fixant officiellement le premier tour des élections présidentielles et législatives cumulées au 11 octobre prochain. Le Burkina Faso est dirigé depuis novembre par des autorités intérimaires mises en place après la chute du président Blaise Compaoré qui doivent céder le pouvoir au nouvel exécutif issu des prochains scrutins.
Le président nigérian Muhammadu Buhari est attendu dimanche ici aux États-Unis pour une visite de 4 jours. Jean-Roger Bion.
La guerre contre le terrorisme et la lutte contre la corruption seront au cœur de ses discussions lundi avec son homologue Barack Obama à Washington. Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre Boko Haram, affilié au groupe État islamique, une priorité de son mandat. Depuis sa prise de fonction le 29 mai, plus de 600 personnes ont été tuées dans de multiples attaques au Nigeria. M. Buhari va aussi rencontrer le chef d'état-major interarmé, Martin Dempsey, et le secrétaire adjoint à la défense, Robert Work, pour discuter du renforcement de la coopération militaire. Les États-Unis partagent des renseignements sur Boko Haram et avaient dépêché des conseillers militaires et civils pour tenter de retrouver les quelques 200 lycéennes enlevées à Chibok en avril 2014. Par la suite, les relations entre Washington et Abuja s'étaient un peu détériorées. Le Nigeria avait jugé insuffisante l'aide américaine contre Boko Haram, ce qui avait suscité une vive réaction du Département d'État.
Augmentation des violations des droits de l'homme à l'approche des élections en RDC. Le constat a été fait par l'ONU, Eddy Sango.
Toutes les régions du pays sont concernées, a révélé hier les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. José Maria Aranaz, qui a qualifié de préoccupante la situation, affirme que ses services ont documenté près de 1500 cas de violations des droits de l'homme de janvier à juin, soit une hausse de 30% par rapport au semestre précédent et de 21% sur un an. Les Nations Unies parlent entre autres d'une nette augmentation du nombre de restrictions aux libertés fondamentales par des agents de l'État dont le respect est essentiel à la tenue d'élections crédibles. M. Aranaz a toutefois fait part de la détente dans les relations avec les gouvernements congolais qui avaient expulsé son prédécesseur, Scott Campbell, après la publication d'un rapport dénonçant des bavures policières ayant coûté la vie à des dizaines de personnes du 19 au 21 janvier lors des manifestations de protestation contre une tentative de modifier la loi électorale. L'ONU avait alors noté dénoncé un usage excessif de la force et d'armes létales pour contrôler la foule, ainsi que des violations commises à l'encontre d'opposants politiques, des membres de la société civile et des journalistes par des agents de l'ordre.
En Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi a proposé un projet de loi pour gracier les personnes condamnées ou poursuivies pour corruption, à condition qu'elles remboursent à l'État les sommes illégalement perçues. Nicolas Pilot nous en dit plus.
Le texte a été présenté en Conseil des ministres et doit être envoyé au Parlement dans les plus brefs délais. Il entend stopper les poursuites et procès et annuler les peines contre des fonctionnaires pour des faits de corruption, sauf s'ils ont touché des pots de vin ou se sont rendus coupables de détournement de biens publics. Si ce projet de loi est approuvé par le Parlement, les personnes visées devront présenter un dossier à une commission qui sera mise en place. Elles devront rembourser une valeur égale à l'argent détourné ou au profit obtenu, avec un taux de 5% pour chaque année depuis les faits. Le président Caïd Essebsi a estimé que sous le régime de Ben Ali, de nombreux fonctionnaires n'avaient d'autre choix que d'obéir aux ordres. Selon lui, il faut maintenant améliorer le climat des affaires et encourager les investissements dont la Tunisie a tant besoin pour faire face à l'épineuse question du chômage.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Sur le plan international, le Parlement grec a approuvé un ensemble de réformes difficiles exigées par les créanciers du pays en échange d'un plan de sauvetage. Lors d'un vote qui a eu lieu tôt ce matin, 229 législateurs ont voté en faveur de la mesure et 64 ont voté contre. Le parti Syriza au pouvoir a pu faire passer le projet de loi avec l'appui des partis de l'opposition pro-européenne.
Les États-Unis ont soumis hier au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui entérine l'accord nucléaire conclu à Vienne mardi entre l'Iran et les grandes puissances et qui pourrait être adopté dans les tout prochains jours. Claire Morin-Gibourg.
La décision a été formellement confirmée par un diplomate américain. Une résolution sur l'Iran a bien été déposée par les États-Unis au Conseil de sécurité. Ce texte valide l'accord de Vienne et remplace en fait les 7 résolutions adoptées depuis 2006 par l'ONU pour sanctionner l'Iran. Cette résolution prévoit une levée progressive et conditionnelle des sanctions économiques internationales imposées à l'Iran au fur et à mesure que Téhéran réduira sa capacité à fabriquer une bombe atomique. Elle maintient cependant un embargo sur les armes conventionnelles pendant 5 ans et une interdiction de tout commerce lié à des missiles balistiques ayant la capacité d'emporter des têtes nucléaires pendant 8 ans. Le vote de cette résolution, probablement dans les prochains jours, ne devrait être qu'une simple formalité puisque l'accord et le projet de résolution lui-même ont été négociés à Vienne par les mêmes membres permanents du Conseil de sécurité ainsi que l'Allemagne.
L'aviation israélienne a frappé ce matin des installations du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza après un tir de roquettes sur le sud d'Israël depuis ce territoire. C'est en tout cas ce qu'a indiqué l'armée citée par l'AFP.
La présidente de la Banque centrale américaine, Janet Yellen, a averti qu'en renforçant son contrôle sur la Fed, le Congrès américain pourrait réduire son indépendance et risquer de nuire à l'économie. Camille Grosdidier.
Janet Yellen comparaissait mercredi devant une commission de la Chambre des représentants dans une atmosphère parfois houleuse.
Efforts to further increase transparency.
Les efforts pour renforcer la transparence, aussi méritoires soient-ils, doivent éviter tout impact inattendu qui pourrait saper la capacité de la Réserve fédérale à forger sa politique dans le meilleur intérêt des familles et des entreprises américaines, a déclaré Mme Yellen. Par contre, Jeb Hensarling, président de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, a estimé que la Banque centrale doit fournir davantage d'informations au Congrès et aux contribuables, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent mieux les changements dans les politiques menées par la Fed. Par ailleurs, Mme Yellen a de nouveau plaidé pour une hausse des taux directeurs de la Fed cette année, malgré les incertitudes économiques liées notamment à la Grèce ou à la Chine. Depuis 2008, la Réserve fédérale maintient ses taux directeurs proches de zéro pour soutenir l'activité, mais elle songe désormais à les relever à mesure que l'économie américaine s'améliore et s'approche de ses deux objectifs, le plein emploi et une inflation annuelle à 2%.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Et ce matin, c'est avec Nathalie Barge.
Dans un rapport intitulé « Changement climatique, une évaluation des risques », des économistes et experts militaires disent que le réchauffement de la planète entraînera une pénurie alimentaire et une grave crise socio-économique et sécuritaire, principalement en Afrique et au Moyen-Orient. La raréfaction de l'eau potable et des terres cultivables deviendra source de conflits, indique le rapport. Le groupe pétrolier italien Eni va investir 4,5 milliards de dollars dans ses activités en Angola au cours des deux prochaines années. L'investissement sera destiné aux activités d'exploration offshore à près de 350 km au nord-ouest de Luanda. Le Burkina Faso bénéficie de près de 28 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour son secteur énergétique, rapporte l'APA. Avec un taux d'accès de 17,6% à l'électricité, le Burkina Faso fait face à une forte demande due notamment aux activités minières et à l'urbanisation. La demande s'est accrue de 13% par an en moyenne sur 10 ans, tandis que l'offre n'a augmenté que de 8%. Selon les prévisions du ministère de l'Agriculture au Cameroun, la production de sorgho pourrait être doublée au cours des 5 prochaines années pour s'établir à 2 millions de tonnes annuellement. Les perspectives sont encourageantes dans les régions du Nord qui bénéficient de 50 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football et cette officialisation de l'arrivée de Sande Olise à la tête du Nigeria.
L'ancien capitaine des Super Eagles a été présenté officiellement ce mercredi comme le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Il succède à Stéphane Keshi, écarté une semaine plus tôt pour manque d'engagement. Sande Olise a signé pour 3 ans selon la Fédération nigérienne de football. Son premier enjeu sera le match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en Tanzanie. Ce sera en septembre. Ancien milieu défensif, Olise a été champion olympique à Atlanta en 1996, champion d'Afrique en 1994. Il a également participé à 2 Coupes du Monde avec les Super Eagles en 1994 et 1998.
Et en rubrique transfert,
l'international uruguayen Maxi Pereira a signé pour 3 ans avec le FC Porto, adversaire historique du Benfica de Lisbonne, où il jouait depuis 8 ans. C'est ce qu'a annoncé mercredi le club du Nord du Portugal. Maximiliano Pereira, arrière-droit de 31 ans, occupera dans l'effectif de Porto la place laissée vacante par le départ de l'international brésilien Danilo, recruté, vous le savez, par le Real de Madrid pour 31,5 millions d'euros. Enfin, le nouvel entraîneur du Real de Madrid, l'Espagnol Rafael Benitez, a expliqué sur le site du club vouloir un Real qui attaque aussi bien que ces dernières années, mais qui défend un petit peu mieux pour remporter des titres la saison prochaine. L'ancien entraîneur de Naples, qui a remplacé cet été l'Italien Carlo Ancelotti après une saison décevante, a détaillé ses projets dans un entretien diffusé sur le site internet du Real de Madrid.
En cyclisme, deuxième étape du Tour du Bénin, ce sont 6 km avec départ et arrivée à Parakou, le second critérium. Victoire du Burkinabé Mathias Sorgho avec 56 secondes d'avance sur le Sénégalais Malik Thiam et 58 sur le Congolais Divine Nzuzi. Mathias Sorgho qui fait coup double puisqu'il s'empare du maillot jaune aux dépens du Ghanéen Samuel Anim. Troisième étape ce jeudi, la plus longue étape de ce tour, 165 km de Parakou à Savé. Difficile entame pour les cyclistes béninois qui se sont mal préparés, reconnaît ici Arnaud Toutouga, meilleur équipier béninois de cette deuxième étape.
Peut-être demain, on peut rester dans le 3 premiers. Pour préparer ce tour, c'est difficile un peu, parce qu'ils n'ont pas de moyens.
On reste en cyclisme pour parler de la 11e étape, cette fois-ci du Tour de France.
Le Polonais Rafał Majka a remplacé son chef de file, l'Espagnol Alberto Contador, en haut de l'affiche du Tour, dont il a gagné la 11e étape. C'était hier à Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées. Le Britannique Chris Froome, de l'équipe Sky, a conservé son maillot jaune sans être inquiété par ses adversaires.
Les athlètes kényans se mobilisent.
Deux célèbres coureurs kényans, dont les anciennes stars du marathon Wilson Kipsang et Tegla Lurupe, ont donné le coup d'envoi hier d'une marche de la paix de 22 jours contre les violences intercommunautaires. Longue de 836 km, la marche est organisée par l'ex-champion de marathon des Jeux du Commonwealth, John Kelly, en mémoire de 3 de ses oncles tués lorsqu'il était adolescent. La légende de l'athlétisme éthiopien, Haile Gebrselassie, devraient rejoindre les marcheurs vers la fin de leur circuit prévu pour s'achever le 6 août.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Bagassi Koura, ici à Washington. Place maintenant au dossier du jour. Le président Barack Obama effectue dans quelques jours une visite au Kenya dont le vice-président William Ruto est poursuivi par la Cour pénale internationale. Le président américain se rendra aussi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie où les chefs d'État africains ne cessent de dénoncer la CPI accusée de ne juger que des Africains. Les États-Unis ne sont pas membres de la CPI mais l'ont toujours défendu. Est-ce que le sujet sera abordé pendant les visites de Barack Obama? Eh bien, Idriss Fall a joint David Zoumenou Dossou de l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
Probablement, ce sujet va être abordé, d'autant que les poursuites contre M. Kenyatta sont abandonnées pour le moment. Mais au-delà de ces sujets-là, je pense que la visite de Barack Obama servirait beaucoup plus à définir ou à donner son héritage en matière des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Et à ce sujet-là, je pense que ce sont les initiatives qu'il a prises tout au long de son mandat à travers l'initiative des jeunes leaders de l'Afrique, la question de Power Africa, une initiative pour fournir l'énergie électrique au continent africain et bien d'autres sujets qui vont, à mon avis, figurer au top de son agenda. La question de la Cour pénale internationale, particulièrement en ce moment où l'Union africaine fait un pied de nez à l'organisation, sera abordé, mais avec beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de respect par un pays qui n'est ni membre de la CPI, ni signataire du traité de Rome.
Justement, quelle serait la crédibilité de Barack Obama à parler de la CPI?
Je pense que c'est déjà un argument utilisé par les chefs d'État, la question de crédibilité des États-Unis et d'autres puissances qui ne supportent pas l'institution. Ça sert quand même une arme dans les mains des chefs d'État africains qui considèrent en tout cas la CPI comme une institution créée pour poursuivre et exclusivement les chefs d'État africains. Donc, ce contentieux reste encore d'actualité, particulièrement avec tout ce qui s'est passé autour du président soudanais Omar al-Bashir lors du dernier sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Et il ne serait pas bien séant que les États-Unis, les partenaires africains n'abordent pas ce sujet pour voir exactement quel est l'avenir réservé à l'institution qui, de toute évidence, doit exister pour parler au nom des victimes et rassurer en tout cas l'Afrique, les partenaires africains, l'Union africaine, les chefs d'État africains que la CPI n'est pas une juridiction taillée sur mesure pour sélective pour seulement juger les Africains. Donc je pense que ce sera intéressant d'engager la discussion sur cette question et de donner l'assurance des États-Unis sur l'existence et la continuité du travail que la CPI a commencé.
Voilà, c'était David Zoumenou Dossou de l'Institut d'études de sécurité à Pretoria en Afrique du Sud. En visite à Washington, la conseillère spéciale du président Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles est intervenue devant l'Institut de la paix des États-Unis. Janine Mabunda-Luoko a évoqué les progrès dans la lutte contre les violences sexuelles à l'endroit des femmes et jeunes filles et les efforts de réintégration des enfants soldats. Un message qu'elle a repris au département d'État, soulevant la question de savoir si, grâce aux progrès accomplis, la RDC pourrait entre autres réintégrer l'AGOA, la loi sur les opportunités de croissance en Afrique. Il faut dire que la RDC avait été exclue de l'AGOA en 2010, suite aux graves violations des droits humains et à l'absence de la bonne gouvernance à l'époque. On écoute Mme Mabunda-Luoko.
Je voudrais que finalement les gens soient à nos côtés pour nous encourager, parce que la paix, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. La paix, c'est des avancées, des petits cailloux blancs qu'on met sur le chemin tous les jours. Et donc, la paix et ce que je fais ne peut se construire effectivement que si nous sommes ensemble. Et donc, bien sûr, nous le faisons comme nation, bien sûr, nous le faisons comme Congolais, mais nous sommes en tout cas toujours ouverts à l'écoute de toute suggestion, toute initiative qui nous permette de renforcer cette lutte et de renforcer en tout cas ce chemin vers, je dirais, une réconciliation interne des Congolais par rapport à cette question de violences sexuelles et d'enfants soldats. Je suis quand même contente de voir qu'aujourd'hui, on est dans un dialogue avec les Nations Unies sur l'éventuel délistage de la RDC sur la question des enfants soldats.
Dans vos discussions avec le département d'État, est-ce que vous avez évoqué la question de la GOA?
Je reste très attentive au dialogue que nous aurons comme nation avec les États-Unis sur la question de la GOA, pour lequel nous n'avions plus été éligibles à cause des questions de violence sexuelle et de recrutement forcé d'enfants. J'espère que la mission que je mène va peut-être un jour, et plutôt dans un jour proche, je l'espère, convaincre les autorités américaines sur la question de la GOA, parce que les femmes du Congo aujourd'hui ont besoin de capacitation économique, de pouvoir économique, et ça, avec l'élargissement du traité à GOA au bénéfice de la RDC, ça pourrait être un plus.
C'est un plus dans quel sens?
Je donne un exemple. Il y a cette ONG de Ben Affleck qui a encadré en fait des femmes survivantes de viol pour des activités agricoles, notamment la production de cacao et de café, qu'ils utilisent aujourd'hui pour produire du chocolat qui est exporté aux États-Unis. Et ça, c'est un bel exemple de à quoi à GOA peut servir pour des femmes survivantes de viol qui se sont engagées dans l'economic empowerment. Donc voilà, le Congo, ce n'est pas qu'une histoire triste. Je le dis souvent, je ne peux pas faire cette mission et ce résultat que nous avons n'est pas isolé. Il s'intègre dans une politique de développement. Il y a un engagement très fort du président Kabila, il faut quand même le noter. C'est peut-être lié à son jeune âge, parce que quand on est d'une génération un peu moderne, on est plus sensible aux questions de l'égalité des genres, du positionnement de la femme, que si on a 65 ans ou 70 ans. Donc profitons de cette opportunité générationnelle-là pour capitaliser en tant que femme du Congo et pour raconter cette autre histoire du Congo.
Voilà, c'était Jeanine Mabunda Luoko. Elle est conseillère spéciale du président Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles en RDC. Elle était jointe par Camille Gros-Didier.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Concernant toujours la RDC, manifestation hier à Goma contre la suspension des vols d'Ethiopian Airlines. Une centaine de personnes sont descendues dans les rues de la capitale provinciale du Nord Kivu pour protester contre la mesure de prise, donc par la régie des voies aériennes. Officiellement, la RVA affirme qu'il faut d'abord finir les travaux de réhabilitation de la piste de l'aéroport de Goma. Faux, répondent les organisateurs de la marche. Eh bien, Nicolas Pino a joint maître Jean-Paul Lumbu-Lumbu du Parti libéral pour le développement.
Eh bien, nous avons marché parce que nous avons voulu d'abord exprimer notre mécontentement par rapport à la décision qui a été prise, nous pensons injustement, par les autorités congolaises en rapport avec le vol d'Ethiopian Airlines ici dans la ville de Goma, qui est un aéroport international. C'est que nous voudrions en même temps exprimer notre soutien total à cette compagnie internationale qui voudrait commencer ses activités dans la ville de Goma, et aussi une façon de montrer aux autorités congolaises, notamment la régie des voies aériennes, la RVA, que la raison par elle soutenue était superflue. La RVA a suspendu pour des raisons de sécurité. Il faut que la RVA parachève la construction de la piste de l'aéroport de Goma. Nous avons estimé cette raison fallacieuse parce que le vol d'Ethiopian Airlines s'est fait avec un avion HDC-400 qui ne pèse que 21 tonnes, alors que d'autres compagnies, notamment CAA, utilisent un Airbus A320 qui pèse près de 80 tonnes. C'est aussi le cas de Air Service. C'est des avions de la Monusco qui atterrissent à Goma sans aucun risque possible. Donc c'est une décision que nous pensons injuste, illégale, infondée.
Selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette décision de la RVA?
Bon, la vraie raison n'est pas évoquée. Nous pensons que les raisons doivent être ailleurs. C'est qu'on veut juste garder les monopoles d'une compagnie dans laquelle il y a des membres du gouvernement qui sont actionnaires et essayer de ne pas favoriser la compétition qui pourtant serait profitable à la population de la République démocratique du Congo, dans la mesure où ça va permettre des désenclavements, ça va éviter la population de Goma d'aller prendre les vols toujours dans les pays étrangers, ça permettrait au trésor public de la République de récupérer les taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, qui est souvent calculée sur des billets d'avion, mais également ça créerait de l'emploi, ça permettrait à d'autres compagnies internationales de venir s'installer, et c'est là dans l'intérêt de la population. La présence des Ethiopian Airlines, ça permettrait à beaucoup de touristes d'atterrir directement par Goma, ce sont les hôtels qui en profiteraient, ce sont les opérateurs de transport qui en profiteraient, c'est le tourisme qui en profitera, donc c'est dans l'intérêt de la population du Nord Kivu.
Voilà, maître Jean-Paul Lumbu-Lumbu du PLD, joint à Goma par Nicolas Pino. Bénin, on connaît depuis hier les résultats des élections municipales. Ce qu'on peut noter, c'est que Cotonou et Porto Novo ont été remportés par l'opposition, tandis que la ville de Parakou est tombée aux mains de la coalition au pouvoir. Globalement, donc, les partis de l'opposition conservent leur fief traditionnel. Plus de détails avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Dans l'arrondissement de Ouida 4, sont respectivement élus M. Adjovi Serin et M. Adjovi Bruno. Dans l'arrondissement de Paou, sont respectivement élus au titre de la liste AND, Adjanou Clotaire Célestine.
C'est là un extrait des résultats tels que proclamés par la Commission électorale nationale autonome qui, par la voix du coordonnateur au budget de l'institution, révélait les choix des populations de la 5e circonscription électorale regroupant Paou, Ouida, Alada, Tofo et j'en passe, situé dans le département de l'Atlantique au sud-ouest du Bénin. Un aboutissement qui ne fut pas sans grandes difficultés, selon le président Emmanuel Tiando, pour qui la proclamation des résultats ce 15 juillet 2015 est une délivrance, car son équipe et lui n'ont rien à se reprocher.
Je ne me reproche rien, nous ne nous reprochons rien à la Sénat, dans la mesure où nous avons essayé, autant que faire se peut, de travailler dans la transparence. Mais vous savez, il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Des choses ont pu nous échapper. Et puis, quand vous procédez au dépouillement de 13 274 feuilles de dépouillement, vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur. Nous avons pris des dispositions pour que cela n'arrive pas. Sans pour autant nous reprocher quelque chose, nous nous disons que dans ce contexte où nous travaillons, il peut y avoir des erreurs. C'est possible. Mais nous ne nous reprochons rien.
À la lumière des résultats ainsi proclamés, la liste RBRP de l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo vient en tête à Cotonou avec 21 élus communaux, suivi du PRD de Maître Adrien Rumbidji avec 13 élus. L'Union fait la nation de Candida Zanaï totalise 10 élus et le réseau Atao de l'un des dissidents du PRD s'incruste au conseil municipal de la ville avec un élu. Porto Novo, la capitale du Bénin, est totalement sur le joug du PRD qui prend la quasi-totalité des sièges du conseil municipal avec 32 sièges concédant un seul élu au FCBE, la Force Corée pour un Bénin émergent, l'alliance qui soutient le président de la République. Cette alliance réussit tout de même à mettre sous sa coupe Parakou, la troisième ville du pays, avec 19 élus contre 5 pour l'alliance ABT et 2 pour l'alliance Soleil. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une série de reportages sur la prêturie de Charleston aux États-Unis, relations entre blancs et africains-américains, port d'armes, actes qui relèvent du terrorisme. Quels sont, d'après vous, les enseignements que peuvent tirer les Américains de cette fusillade de trop? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Aujourd'hui, VOA Afrique sur la voie de l'Amérique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Arnold Besson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Bagassi-Coura ici à Washington. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.